Vous écoutez
RMC. RMC, 9h10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Il est 9h07, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Et après le jardin, entre 6h et 7h, après la maison, après la forme, la santé, place maintenant à la vie numérique. Et Raphaël Grabli, qui est à mes côtés. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Tout va bien?
Bah super.
Voilà, Raphaël Grabli, vous le savez, notre expert vie numérique, journaliste à BFM Tech. Raphaël, on a pas mal de sujets, encore une fois, à évoquer ensemble ce matin, notamment le cyberharcèlement. C'est un sujet, j'allais dire compliqué, en tout cas délicat. On va expliquer ce que c'est. On va bien sûr montrer du doigt les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui
l'espace. Il y a d'autres sujets, par exemple les jeux vidéo.
Bien sûr.
Mais les réseaux sociaux, forcément, c'est le premier endroit.
Et rappelle-toi, à l'époque, les forums aussi
étaient. Les forums, exactement. C'est... Et maintenant, ça s'est un petit peu déplacé sur les réseaux sociaux, dans les commentaires.
Voilà. Et ça peut même aller dans les commentaires YouTube, parfois. On en a partout du cyberharcèlement.
YouTube aussi. Ils ont tous un vrai problème pour lutter contre le cyberharcèlement. Et du coup, il y a des solutions complémentaires qui se mettent en place. Des solutions notamment françaises. Il y en a une qui est arrivée il y a quelques mois, qui fonctionne bien, qui s'appelle Bodyguard, voilà, comme un garde du corps. Qui est une application qui a été lancée l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et on aura en studio Charles Cohen, le fondateur de Bodyguard, pour nous expliquer comment ça fonctionne.
Parfait.
Et pourquoi il a voulu créer cette application.
Très bien. Vous avez des questions sur ce cyberharcèlement, n'hésitez pas, on est en direct, vous pouvez à tout moment poser vos questions ou témoigner aussi. Peut-être avez-vous été victime de propos qui étaient infamants, insultants. C'est ça, le cyberharcèlement.
Ah, ça peut aller très loin, malheureusement. Ça peut aller
Très subtil aussi.
Ça peut être très subtil.
Et après, la question qu'on peut se poser, c'est où commence le cyberharcèlement?
Exactement, c'est très compliqué, finalement.
Parce qu'une taquinerie verbale, peut-être simplement humoristique ou un petit clin d'œil rigolo, sympa, mais ça peut être aussi considéré pour certains qui l'interprètent d'une manière différente comme un cyberharcèlement.
Et le problème, alors ça ne concerne pas que les enfants, mais pour les parents, c'est très compliqué à voir venir aussi.
Bien sûr.
Et je crois, on en discutera, mais je crois qu'il y a 20% des plus jeunes qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement, à des degrés différents bien sûr, mais ça peut aller malheureusement jusqu'à des situations assez dramatiques.
Sujet un peu plus léger et dans l'air du temps, est-ce qu'il faut craquer sur un smartphone 5G? C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure.
Et ça va être mon conseil.
Voilà, le conseil de Raphaël. Et puis, je vous le rappelle, à tout moment, vous pouvez nous joindre et poser vos questions sur tous les usages du numérique au quotidien. Vous savez qu'RMC a une heure dédiée à ce sujet, tous les samedis entre 9h et 10h avec Raphaël, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous rappeler. Et on attaque avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour l'équipe.
Bienvenue Bernard. Vous êtes en Seine-et-Marne.
Exactement.
Et alors vous voulez changer de téléphone?
Voilà, je change, je me fais plaisir pratiquement tous les 3-4 ans.
Mais vous avez bien raison. Vous avez quoi là actuellement avant de changer?
J'ai un S8.
Ah, S8. Alors ça, c'était un smartphone que j'avais adoré. C'était la première, c'était le premier format, nouveau format avec les écrans bord à bord. Le S8, c'était vraiment un super téléphone. C'est toujours d'ailleurs.
Oui. Et qui
de chez Samsung, on rappelle, Galaxy S8.
Il y avait une vraie progression aussi sur la photo.
C'était la vraie rupture. Et sur la photo, c'est vrai qu'il est excellent, effectivement.
Donc vous voulez, alors votre S8 a bien vécu, Oui, c'est vrai, effectivement, c'est sorti quoi, il y a 3 ans.
Et il doit avoir 3-4 ans maintenant, le S8.
Ouais, 4 ans, bien sûr, 4 ans, oui.
Voilà, et donc vous voulez nous offrir un nouveau. Vous voulez toujours rester chez Samsung?
Bah, j'hésite entre le Samsung, le S20 Plus.
Ouais.
Et le Apple 11 Pro.
Oh là 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 là.
Oui,
là,
bataille, grosse bataille là.
Samsung, Apple. Il nous faudrait.
Et puis la question du jour qu'on avait précisé, c'est.
On peut faire une émission de 4 heures, je crois.
Oui, la question, pardon Bernard, on vous écoute.
Du jour, pour la 5G ou pas?
Ah bah alors là
ça tombe bien parce qu'après on va...
vous me faites une transition parfaite. Alors sur la 5G, je vais vous répondre.
Il est bien cet auditeur.
Elle est parfaite. On va l'inviter toutes les semaines.
Vous faites bien d'interviewer votre cousin Raphaël, c'est parfait.
Merci Bernard Grabli.
Bernard G.
Écoutez, alors Samsung, si vous aimez l'interface, si vous aimez l'univers Samsung, moi, je vois pas de raison de changer, honnêtement. Okay. Après, parce que basculer d'Android à iOS, on en parle souvent, mais c'est un pas très important.
Très important, oui.
Si la différence se joue uniquement sur les spécificités, Sincèrement, entre l'iPhone 11 Pro et le Samsung Galaxy S20 Plus, c'est les deux haut de gamme, très haut de gamme. Donc pour moi, il y aura pas de différence notable. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous avez un écran magnifique. C'est un très bon très grand format. C'est définition, Samsung et Apple, les deux ont définition assez parfaite en général. Hein,
c'est quand même si vous êtes satisfait sûres. de votre écosystème et de tous les usages que vous avez de votre téléphone, ça sert à rien de vouloir changer.
Ok. Bon,
après, la seule chose à prix égal, mais moi, je pense que votre Samsung, vous l'aurez moins cher que l'iPhone. Parce que Samsung, ça baisse un petit peu. Donc, essayez d'avoir le Samsung moins cher. Parce qu'à prix égal, c'est financièrement, ça reste plus, financièrement souvent plus intéressant d'aller chez Apple pour une raison simple, c'est que les iPhones se déprécient moins. Et donc, que vous pouvez le revendre toujours un peu plus cher à terme. Mais c'est l'histoire de 150-200 euros si vous le revendez dans 3 ans. Donc, à prix égal, plutôt l'iPhone, là, il y a cet avantage. Mais moi, je pense que votre Samsung, vous le trouverez moins cher que l'iPhone. Souvent, les prix des smartphones Android baissent. Donc, finalement, vous vous y retrouverez quand même. Donc, sincèrement, c'est une histoire de goût au niveau de l'interface. Si vous aimez l'interface Samsung, franchement, je vois pas tellement de raisons de changer. Parce qu'au niveau de la photo, Samsung, c'est une valeur sûre.
Alors, le Galaxy S20, bon choix ou
alors,
pas?
Le S20 Plus, notamment, je recommande.
C'est le S20 Plus, hein, Bernard, que vous voulez.
Oui, c'est le Plus, oui.
Le grand modèle. Parce qu'il y a un S20 Ultra aussi, qui est le très haut de gamme.
Il y a le S20 Ultra qui est le très haut de gamme, ou là, qui est en photo encore plus impressionnant parce qu'il a un zoom assez dingue. Alors en théorie c'est du x100, mais pour l'avoir testé, on s'est amusé avec jusqu'à du x10. Vous avez une qualité d'image qui est quasiment identique à ce que vous avez de façon classique.
Comme le P30 Pro. D'ailleurs.
Comme le P30 Pro, encore presque un peu meilleur, mais pas loin du P30 Pro. C'est vrai que d'ailleurs dans les je pourrais aussi vous recommander le Huawei P30 Pro qui est celui de l'année dernière. Qui lui en rapport qualité-prix assez exceptionnel et qui a les services Google. Ça peut être aussi une alternative. Mais si vous, après vous changez encore d'écosystème, même si vous restez sur Android. Mais le Ultra, voilà, la différence c'est au niveau de la photo. Et après il est plus cher. Il est prix recommandé, c'est 1 259 €.
Ouais, mais c'est le Plus me va bien parce qu'il est pas l'autre c'est comme il est un peu énorme.
Ouais, alors c'est le problème aussi, c'est qu'il est trop gros. Moi,
c'est vraiment un gros coco.
C'est une question de goût aussi, mais
puis il est lourd en plus.
Il est très lourd. Même si le iPhone 11 Pro Max est aussi gros et lourd parce qu'ils ont augmenté la taille de la batterie. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas les grands formats. Je le trouve très gros.
J'ai pris des bras depuis le 11 Pro Max.
On dirait Nadal. C'est vrai, Raphaël Nadal.
Alors le problème, c'est voilà, j'ai que le bras droit.
Mais non, il faut aimer les smartphones très imposants. Voilà, c'est clivant, on va dire. Qu'il y a des gens qui peuvent pas. Moi, je pourrais jamais me l'acheter. Je le trouve trop gros. Mais le S20 Plus, c'est très très correct en termes de taille. C'est beaucoup plus classique.
Parce que le S8 et le S20 Plus, c'est à peu près le même gabarit.
Comment?
Le S8 et le S20, le S20 Plus, c'est à peu près le même gabarit que le S8.
Oui, c'est assez proche. Le S20 notamment, c'est assez proche.
On a beaucoup critiqué l'autonomie des nouveaux S20, des Galaxy S20.
Alors sur le S20 Plus, ça va. En fait, de toute façon, moi, je trouve sur l'autonomie, on stagne quand même un petit peu depuis quelques années. C'est-à-dire que, alors Samsung historiquement sur l'autonomie, ils sont très bons. Vous tiendrez sans problème la journée. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on tient 2 jours. Aujourd'hui, de toute façon, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de smartphones qui tiennent 2 jours. Donc, l'idée pour moi, c'est surtout de pouvoir tenir une grosse journée hyper dense où on fait plein de photos et où on met son téléphone à charger à minuit. Pour moi, c'est ça le cas le plus extrême. Qui peut être intéressant. Et là-dessus, sur le S20 Plus, moi, je pense que vous n'aurez pas de problème là-dessus. En tout cas, ce n'est pas un critère discriminant.
Puis, tu sais, en 15 secondes, on parle beaucoup des locations Samsung.
Alors, ça, c'est. Moi, je trouve ça très bien. Moi, je suis assez partisan de la location. Et Samsung, c'est le seul fabricant qui fait de la vraie location mobile. Ça s'appelle Up to You, je crois, leur programme. Et alors, je crois qu'on peut l'avoir pour une quarantaine d'euros par mois. Ce qui permet de changer le téléphone fréquemment. En fait,
le téléphone ne t'appartient pas.
Le téléphone appartient à Samsung. Voilà. On le loue. Et on peut le changer fréquemment. Donc, ça, c'est vraiment pour les geeks. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un nouveau smartphone tous les ans, c'est hyper intéressant. Derrière, ils vous récupèrent évidemment le smartphone qui reconditionne. Enfin bref, ils le trouvent une seconde vie évidemment. Enfin, j'espère du moins. Sinon, ce ne serait pas très écolo. Mais en tout cas, moi, le système de location de Samsung, je trouve ça très très bien. Et j'ai regardé leurs offres, j'avais travaillé un peu dessus. Franchement, les prix sont très équilibrés. Vraiment. Okay. Pour en avoir discuté même en interne, ils se font pas des marges folles là-dessus. C'est un bon prix. Je trouve que le système de location est très...
pour Samsung de faire connaître la marque.
Exactement. En fait, c'est ça d'ailleurs. Leur objectif, c'est de faire entrer de nouveaux clients, entre guillemets. Donc, si ça vous intéresse, moi, je pense que vous pouvez clairement y aller. Simplement, faites attention. Faut peut-être prendre une petite assurance en plus pour la casse. Parce que si vous cassez le téléphone, faut que vous le payiez à Samsung.
À noter qu'Apple fait ça, mais qu'aux USA.
Apple le fait aux États-Unis.
C'est bien dommage.
Bien de le faire en France.
C'est bien dommage.
Ils font tous des offres de financement à 0%.
Oui, mais c'est pas pareil.
Mais là, c'est pas pareil. On achète le téléphone et on a une offre de financement.
Alors
là,
qu'aux États-Unis, vous allez dans un Apple Store et vous pouvez louer un iPhone.
Exactement. Pour les geeks, c'est pas mal.
Donc,
okay. Sur la location Samsung, moi, je vous le recommande. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller en tout cas.
C'est
une offre qui est assez intéressante.
Pour l'occasion, oui.
Et voilà, tentez, Bernard. Vous allez sur le site de Samsung, tout est expliqué. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Alors vous restez, surtout ne vous coupez pas la radio parce
j'ai
que
j'ai la suite de votre réponse là.
Raphaël va vous parler de 5G maintenant.
Ah, exactement, je vais écouter.
Et bien voilà, c'est un. Vous savez quoi, vous restez avec nous. Et puis comme ça, vous pourrez même réagir si vous avez des choses que vous voulez rajouter. Mais comme on fait ça bien à RMC, autant en trafic, météo, les jingles, on maîtrise pas. Mais alors là, vous allez voir. Pour le conseil et le tuto de Raph, on est nickel.
Voilà. RMC.
Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Le tuto de Raph.
Raphaël Grably. On parle de 5G. On commence à évoquer la 5G. J'ai même vu une pub sur la 5G. En disant oui, ce téléphone est déjà compatible 5G, etc. Et alors qu'on la capte pas.
La 5G, on l'a pas. Hein. Enfin, je sais pas si je l'ai. Moi, je l'ai pas.
Écoute, non. Parfois, moi, j'aimerais bien avoir de la 4G même. J'en
ai
même
pas. Mais chez Samsung, tous les modèles sont vendus en 4G, en 5G.
Exactement.
Ou en 5G.
Mais la question qu'on peut se poser, tiens, tout comme Bernard qu'on a eu au téléphone il y a un instant, je dois changer de téléphone cet été 2020, est-ce que je dois prendre un téléphone 5G ?
Oui, alors on peut rappeler où on en est. Alors d'ailleurs, on parle des fabricants qui ont lancé leur smartphone 5G. Il y a Apple aussi qui devrait lancer l'iPhone 5G. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de l'année, toutes les grandes marques auront un smartphone 5G. Il faut savoir que le réseau arrive en théorie à la fin de l'année aussi. Donc c'est vrai qu'on se dit, tiens, il y a les fabricants qui lancent leur smartphone 5G, il y a les opérateurs qui lancent le réseau 5G, donc a priori, 2020, l'année de la 5G. Alors, il faut faire quand même très attention, parce qu'en fait, pour passer à la 5G, les opérateurs, ils vont pas appuyer sur un gros bouton en disant, ça y est, comme les illuminations sur les Champs-Élysées à Noël. Non, ça va être très long. En fait, ça va être l'arrivée de la 5G, la fin de l'année 2020, ça va être le début en fait d'un long chantier qui va durer... En gros, une dizaine d'années. D'ailleurs, il y a qu'à voir sur la 4G. Hein. La 4G a été lancée il y a un peu moins de 10 ans aujourd'hui.
Oui, en 2012,
En 2012, il me semble. Mais tout le monde n'est pas couvert. Alors, la plupart du territoire et la plupart des clients sont couverts.
C'est vrai, t'as raison de signaler. Il a fallu 8 ans pour qu'on ait 99% de la population.
Ça prend du temps. C'est un chantier national. C'est absolument énorme. C'est des pelleteuses, c'est du câble, c'est des antennes relais. C'est très, très, très long. Ça coûte évidemment extrêmement cher et ça va être pareil pour la 5G, ça va prendre du temps. Donc concrètement, très concrètement, ce qui va se passer, en gros, dans les prochaines années, quand je dis dans les prochaines années, c'est dans les 2-3 prochaines années, on aura un peu de 5G dans quelques grandes villes. Donc ça va être quand même assez limité et pas partout. Et surtout, en fait, il y a un peu deux 5G. Il y a la première 5G, entre guillemets, la 5G 1.0, celle qui arrive à la fin de l'année. Et en fait, je vais pas essayer d'être trop technique, mais en gros, elle va se baser sur des fréquences qui sont proches de celles de la 4G. C'est-à-dire que ça va éventuellement désengorger le réseau 4G, ça va améliorer un petit peu le débit, mais franchement, pour l'utilisateur final, ça va pas être révolutionnaire. Quand je vais regarder une vidéo Netflix, elle se lancera de la même façon, ou une vidéo YouTube, elle se lancera de la même façon.
Le seul intérêt, c'est que on sera plus en 4G. Et donc, si le réseau 4G où on est
ça laissera de la place pour ceux qui sont en 4G.
Voilà,
en
fait, ça va soulager.
Ceux qui vont payer le smartphone 5G vont quelque part subventionner ils vont prendre la 5G, du coup, ils seront plus sur les fréquences 4G.
Bon, l'intérêt, c'est qu'il y aura personne sur le réseau 5G, donc il ira plus vite encore.
C'est vrai. Non, mais il y aura ce sera mieux. Si on capte la 5G avec un smartphone 5G, clairement, ce sera mieux. On va pas dire le contraire. Mais ça va pas changer la vie de
Mais ça va pas être révolutionnaire.
Non, ça va pas être révolutionnaire. Là, c'est la seconde phase de la 5G qui va vraiment propulser entre guillemets les débits, parce que là on va avoir des nouvelles fréquences, des fréquences bien plus larges. En fait, pour faire simple, là, la 5G, la 4G c'était la petite route nationale, là le début de la 5G ça va être une autoroute à deux voies, et la 5G qui va arriver dans 5 ans avec ces nouvelles fréquences, ça va être des autoroutes à 6 voies, c'est-à-dire que l'information pourra transiter de façon beaucoup beaucoup plus rapide.
Mais il n'y a pas de radar là en plus.
Voilà, là il n'y a pas de radar. Donc c'est pour ça, en gros, si on résume, acheter un smartphone 5G en 2020, c'est un smartphone qui, dans certains endroits, aura un débit un peu meilleur. Voilà. Donc là, après, c'est les auditeurs qui font leur choix. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir parce que c'est plus cher. En général, par exemple, Samsung, dont on parlait, c'est 100 euros de plus en moyenne hein, pour avoir la 5G versus la 4G. Alors après, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. On rappelle, parce que c'est, il faut quand même le dire, tous les smartphones 5G sont compatibles 4G. Hein, ils fonctionnent oui, avec la 4G. Non, parce que évidemment, faut le préciser. Donc, on pourra évidemment continuer à surfer normalement. C'est juste que quand tu auras la 5G, on ira un peu plus vite.
Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, on est en 2020. Tu disais, voilà, le réseau va se développer dans les 2-3 prochaines années. Quand on sait que la durée de vie d'un téléphone, c'est 2-3 ans.
Oui.
Voilà, finalement, c'est dans 3 ans qu'il faudra obligatoirement s'offrir un téléphone 5G.
Oui, alors, d'autant plus. Alors, oui, je crois que la moyenne, c'est effectivement 3 ans, peut-être un petit peu plus. On doit aller presque vers les 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais finalement, comme tu dis, là, aujourd'hui, c'est pas indispensable. Dans 3 ans, ce sera beaucoup plus logique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit que tous les smartphones, déjà cette année, et c'est très intéressant, sont compatibles 5G en haut de gamme, et qu'on voit maintenant déjà des smartphones de milieu de gamme qui sont compatibles avec la 5G, ça veut dire que dans 3 ans, on aura des smartphones compatibles 5G qui seront au prix des 4G actuels. Donc en fait, si on attend un peu, on n'aura même plus besoin de surpayer quoi que ce soit par rapport au marché actuel. Donc, si vous voulez faire un choix et que vous avez un smartphone qui est compatible 5G, dites pas non pour autant. Qui peut le plus, peut le moins, et vous êtes paré, même si ce ne sera pas révolutionnaire. Après, il ne faut pas que ce soit votre critère de choix. Voilà. Choisissez le smartphone qui vous plaît le plus. S'il n'est pas 5G, ce n'est pas très grave pour le moment.
Mais bon, petit signe quand même, Apple va lancer son prochain iPhone en 5G. Ça veut dire que c'est le réveil de cette technologie.
Oui, hein,
voilà. c'est quand même un signe.
Oui. Et à la limite, chez Apple, acheter un iPhone 5G, c'est un peu différent, parce qu'Apple, ce qui est important, c'est le prix de revente. Puisque c'est smartphone. Et donc, le prix de revente
dans 3 ans coûtera plus cher.
Dans 3 ans, en 5G, là, pour le coup, ce sera important. Donc,
c'est comme si on prenait une voiture avec tout les options.
Exactement,
quoi,
c'est un peu plus spécifique.
9h23, on va revenir après la météo et un point sur la circulation. Avec Raphaël et notre invité, nous évoquerons le cyberharcèlement et on découvrira à cette occasion une appli qui protège contre le cyberharcèlement. Il s'agit de Bodyguard, c'est une appli française et nous recevrons le fondateur de cette start-up dans une minute. 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour réagir. A tout de suite.
RMC 9h10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
9h31, le retour de ce week-end des experts. C'est la vie numérique avec Raphaël qui m'accompagne comme chaque samedi. 9h-10h. Toutes vos questions en vie numérique sur vos usages hein, de vos appareils numériques, n'hésitez pas. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. Raphaël, sujet de société, sujet compliqué, délicat. On va évoquer ce matin le cyberharcèlement.
Oui, alors c'est un sujet récurrent, mais qui est quand même pas mal dans l'actualité. On en a parlé notamment par la loi Avia, la loi de lutte contre la haine en ligne, qui a été en grande partie censurée, donc qui pour le moment a été promue, mais qui ne change pas grand-chose. L'idée initialement, d'ailleurs, c'était de forcer les réseaux sociaux à supprimer les contenus haineux en 24 heures. Ça a été jugé inconstitutionnel, donc ça va pas être mis en place. On a parlé aussi régulièrement justement des difficultés des réseaux sociaux à lutter contre la haine en ligne, parce que forcément quand on parle de Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs, quand on parle de Twitter avec des millions d'utilisateurs, Instagram, YouTube, on comprend bien que humainement c'est impossible de faire le tri, donc c'est des algorithmes, et avec des algorithmes on peut pas faire les choses parfaitement, c'est très compliqué. Et donc, il y a des solutions alternatives qui se développent en complément, dont une qui s'appelle Bodyguard. Alors, Bodyguard, c'est une application qui a été lancée il y a un an et demi, si je me trompe pas.
Elle a été lancée par Kevin Costner.
Exactement, avec Whitney Houston.
Ma culture cinématographique, bien évidemment.
Je ne sais pas si je m'inventerai à ta place, mais bon, c'est pas grave.
C'est un bon film.
Non, c'est un très bon film, Bodyguard. Bah, la musique, la chanson est quand même...
Oui, bien sûr.
Fait date.
Et puis, RIP Whitney Houston, quand
oui.
même. Voilà.
Voilà, on salue Whitney Houston.
Voilà.
Et donc, en studio avec nous, alors là, sans transition du coup, on a Charles Cohen, qui est donc fondateur de l'application Bodyguard. Bonjour Charles.
J'allais dire bon duel. Ça n'a rien à voir là, ça y est.
Bonjour Raphaël, bonjour François.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors juste rappelez-nous et à nos auditeurs le principe concrètement de Bodyguard.
Alors donc Bodyguard, c'est
qui signifie effectivement garde du corps. On traduit quand même.
Qui signifie, ouais. C'était l'idée de faire un garde du corps virtuel. Donc Bodyguard, c'est une application mobile gratuite, disponible sur Android et sur iPhone, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement et des contenus haineux sur vos réseaux sociaux. Donc l'usage est très très simple. On télécharge l'application, on se connecte avec un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. Et à partir
donc je vais rentrer mon login Twitter, mon login Facebook, mon login Instagram, Snapchat, etc.
Tout à fait.
Ça va se connecter à l'appli ?
Ça va se connecter à l'appli. En fait, vous allez vous connecter avec vos réseaux sociaux. Vous allez autoriser Bodyguard à gérer votre espace commentaire pour vous. Et nous, on va finalement demander les droits aux plateformes qui vont nous autoriser à gérer votre compte avec. Donc, on demande que ces droits-là, bien entendu. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez personnaliser votre modération. C'est-à-dire que pour chaque catégorie de haine, vous allez pouvoir dire à Bodyguard si vous souhaitez les supprimer ou non et avec quel niveau de sévérité. Donc, on détecte les insultes, les moqueries, les menaces, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement moral, l'homophobie et le racisme.
Et je peux choisir, donc, cocher tel ou tel thème de cyberharcèlement.
Et ça va encore même plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez, pour chacune des catégories, établir un niveau de sévérité de modération, en proposant une modération faible, forte, très forte, voilà, ou
si
extrêmement
forte. Si on veut vraiment voir aucun mot déplacé, on peut mettre la modération maximale. Alors, il faut quand même préciser, quand vous dites on supprime, évidemment, on ne supprime pas les messages en eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas supprimer le message d'un autre utilisateur sur Facebook ou Twitter.
Vous les masquez, c'est
ça ? En fait, vous les masquez.
Alors, ça dépend des plateformes. Sur Twitter, on va muter, masquer l'auteur du contenu, mais on ne peut pas supprimer un tweet qui ne nous appartient pas. Donc, en effet, le tweet est toujours finalement sur la plateforme, mais masqué de tous. Là où sur YouTube, sur Instagram, c'est votre espace commentaire et vous nous donnez le droit de gérer votre espace commentaire.
Donc, si c'est nos vidéos.
Si c'est vos vidéos.
Si on a une petite chaîne YouTube ou une grosse d'ailleurs,
exactement.
On peut supprimer les commentaires YouTube.
Exactement. Et donc Bodyguard va retirer le contenu de la plateforme et vous pouvez à tout moment, bien entendu, via l'application Bodyguard, le restaurer si besoin. Le fonctionnement, ce qui se passe derrière tout ça, une fois qu'on a personnalisé sa modération, c'est que toutes les 10, 15, 20 secondes, Bodyguard va récupérer tous les contenus qui vous sont destinés. Donc les commentaires sous vos vidéos YouTube, les commentaires sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter.
Ça va tout scanner en fait.
Ça va tout récupérer sans les stocker.
C'est un robot qui lit en fait.
Exactement. Il n'y a aucune intervention humaine. C'est un robot qui récupère ses contenus, qui les analyse avec notre technologie. Et si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, l'action de votre choix est effectuée et donc ça peut retirer le contenu, etc.
Et alors juste, ça veut dire que vous faites mieux le boulot entre guillemets que les réseaux sociaux parce qu'ils ont des algorithmes aussi, les réseaux sociaux. Ils sont censés repérer ces contenus.
Alors les réseaux sociaux ont des algorithmes qu'on appelle de machine et de deep learning qui sont des technologies très performantes pour assister un modérateur humain à modérer un petit peu plus vite. Mais le machine learning ou le deep learning ne peut en aucun cas faire la différence entre un contenu haineux qui est destiné à Emmanuel Macron d'un contenu haineux qui vous est destiné personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de différencier la haine en ligne. On parle de haine en ligne, mais il y a deux types de haine. On a d'un côté le cyberharcèlement, qui sont des contenus haineux destinés à une personne en particulier, et on a de l'autre côté les discours de haine, qui sont des contenus haineux destinés à un groupe de personnes de par leur religion, leur couleur de peau, etc. Et les technologies utilisées par les plateformes sont efficaces sur les discours de haine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas protéger un individu parce qu'ils sont incapables de dire que ce contenu haineux en question est destiné à l'utilisateur qu'ils veulent protéger, mais par contre ils traitent bien les discours de haine et ils utilisent ces technologies-là qui n'ont finalement aucune analyse contextuelle, c'est-à-dire qu'elles nous donnent une réponse en disant bah, ce contenu-là est haineux à 90% mais on n'en sait pas plus.
En gros, les réseaux sociaux, ils disent nous, on regarde tout ce qui se passe de façon, on va dire, régulière, pareil pour tout le monde, et avec Bodyguard, on dit à l'application, moi je vais peut-être être un peu plus susceptible de recevoir des messages, surveille-moi en particulier.
Exactement, l'avantage de Bodyguard, c'est que Bodyguard vous protégera, vous, à titre de personne, des contenus haineux qui vous sont destinés personnellement. C'est-à-dire que si un ami vous insulte pour rigoler, ou si un ami dit, t'as raison, Tartampion est un con, là Bodyguard ne fera rien.
Parce qu'il sait que vous êtes amis.
Parce qu'il sait qu'on est amis, parce qu'il sait que le contenu n'est pas destiné à la personne qu'on protège. Et donc nous, vraiment, Bodyguard, c'est pour protéger l'individu des attaques qui lui sont destinées personnellement.
Et juste une question, cette technologie, parce que ça veut dire que ça peut détecter le contexte, c'est-à-dire que effectivement, s'il détecte qu'on rigole ensemble et qu'il me balance une insulte, il va dire bon bah c'est deux potes qui rigolent.
Exactement.
Qui c'est qui l'a développé ? Ça, c'est vous, personnellement ?
Alors, c'est moi qui l'ai développé, personnellement. J'ai 24 ans, j'ai commencé la programmation à 10 ans, et c'était une passion pour moi. Donc, je me suis lancé dans ce challenge-là, qui est une technologie qui est beaucoup plus longue à développer que les technologies proposées par les GAFA, qui, elles, ont beaucoup plus de données, mais qui, à terme... et bien mieux. Comment fonctionne la technologie ? Je pense que ça peut
oui,
vous intéresser.
Bien sûr, évidemment. Si c'est pas trop compliqué.
Oui, non, j'ai essayé de vulgariser. Donc on reçoit.
Vous allez pas nous dicter des lignes de code.
Pas encore. Donc on reçoit un commentaire. On va récupérer les commentaires. On l'analyse avec nos technologies. La technologie, elle va dans un premier temps nettoyer le commentaire, c'est-à-dire qu'elle va retirer toutes les fautes d'orthographe, toutes les fautes de frappe, convertir les emojis pour partir sur une base propre. Une fois qu'elle a nettoyé ce commentaire, on va regarder dans cette phrase les groupes de mots qui sont potentiellement problématique. Donc ça peut être des insultes, ça peut être d'autres mots, et une fois qu'on a repéré ces groupes de mots, on va voir ce qui se passe avant et après dans la phrase. Avant ces groupes de mots et après ces groupes de mots, et c'est ce qu'on appelle une analyse contextuelle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe avant ou après, on est capable de dire, on a trouvé une insulte qui est destinée à telle personne. Ça peut être directement à l'utilisateur, ça peut être à Donald Trump, ça peut être à une personne X, ça peut être à un groupe de personnes, et après, on prend la décision, en fonction de vos règles de modération, de retirer ou non le contenu.
Après, la subtilité de la langue française, de toutes les langues, bien sûr, fait qu'il peut y avoir des erreurs, j'imagine, non, dans votre système.
Alors, la technologie détecte 90% des contenus haineux, c'est-à-dire que 9 contenus haineux sur 10 sont détectés en temps réel par Bodyguard.
Ce qui est déjà pas mal.
Et on a 2% en moyenne d'erreurs, 2% de faux positifs. Donc, c'est des contenus haineux qui sont supprimés par erreur, mais restaurés après par des modérateurs humains qui sont chez Bodyguard.
Témoignage de Christophe au 32-16. Bonjour Christophe.
Allô, bonjour messieurs.
Bonjour Christophe.
Bienvenue Christophe. Alors vous appelez pour nous raconter un petit peu la manière dont votre fils dialogue avec ses potes durant les jeux vidéo, les choses comme ça.
Oui, tout à fait, oui.
Allez-y,
en fait,
allez-y.
Comme il est, il est un peu jeune. Moi je suis de l'ancienne école, donc je me sens des fois un peu dépassé. Donc une fois, j'ai trouvé en train de discuter avec ses potes et tout sur un jeu vidéo, ses camarades de classe. Donc j'étais un peu surpris, mais comme j'avais pas vraiment d'avertisseur pour m'indiquer comme quoi il était en contact avec eux, quoi, en fait.
Mais qu'est-ce que vous avez découvert, Christophe ?
Qu'est-ce qui vous choquait, en fait ?
Vous avez choqué ?
Ils discutent, ou c'était les propos que vous avez lus qui vous ont choqué ?
Non, c'est plus le fait qu'ils discutent.
Oui, vous avez été surpris de cette possibilité. Vous ne pensiez pas qu'il pouvait, en fait, dialoguer avec ses potes.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Ah bah oui.
Mais c'est un peu le problème de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que bon après c'est pas nouveau, c'est vrai que ce qui se passe dans la cour de récré c'est pareil, ça échappe aussi parfois aux parents et sur les réseaux sociaux ça reste sous les radars. Alors là on va parler des plus jeunes forcément. Est-ce que Bodyguard, parce que il y a eu pas mal de stars qui ont communiqué sur Bodyguard, est-ce que c'est une application qui s'adresse vraiment à tout le monde ?
Alors vous savez quoi, on va faire du hall suspense. Voilà, on remercie Christophe en tout cas pour son petit témoignage. Raphaël, je t'ai coupé l'herbe sous le pied.
C'est pas grave.
On revient dans un instant pour répondre justement à cette question avec notre invité. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
10h moins le quart, le retour de ce week-end des experts. On termine notre rendez-vous vie numérique avec Raphaël Grabli et notre invité Charles Cohen, qui est fondateur de la start-up Bodyguard, une application qui protège en fait contre le cyberharcèlement. Charles nous expliquait il y a un instant comment ça fonctionnait. On n'a pas terminé avec le cyberharcèlement, parce que c'est vrai que Raphaël, il y a à la fois, on va dire... monsieur, madame, tout le monde hein, qui peut être visé par le cyberharcèlement. Et puis après, des personnalités publiques
forcément,
qui, elles, bon, voilà, ont, évidemment, de par leur audience, sont encore plus exposées au cyberharcèlement.
Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs entendu parler de Bodyguard initialement, alors pas mal avec Bilal Hassani qui s'était fait cyberharceler, qui avait utilisé l'application. Il y a des politiques aussi qui utilisent Bodyguard. Je crois qu'il y a Aurore Berger qui utilise Bodyguard. Il y en a d'autres. Alors bon, on va pas dire tous les noms, mais en gros, le fond de ma question, c'est... est-ce que c'est une application qui ne sert qu'aux personnalités publiques ou alors qui ont une communauté, en tout cas sur Internet, ou est-ce que c'est, ça peut concerner tous les enfants ?
Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Bodyguard, en plus de lutter contre ce fléau, je l'ai également créé pour finalement, comme un outil d'aide à la création, dans le sens où le cyberharcèlement et la haine en ligne entraînent de l'autocensure chez beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de jeunes enfants qui n'osent pas s'exposer publiquement sur Internet, créer des vidéos de peur de se faire insulter. Donc à la base, Bodyguard, c'était également un outil d'aide à la création. Et une fois protégé, les enfants osaient enfin créer du contenu et s'exposer et laisser libre à leur création.
Après, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans.
Exactement. Par enfant, je parlais des enfants de plus de 13 ans, même si entre nous, il y a beaucoup d'utilisateurs de Bodyguard qui ont moins de 13 ans.
Très concrètement, il y a beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux qui sont très très jeunes, qui ont moins de 10 ans parfois.
Tout à fait. Donc au début, c'était une application qui était surtout utilisée par les enfants, et maintenant, petit à petit, c'est extrêmement varié. Ça va du journaliste à l'influenceur de 10 millions d'abonnés, au ministre, au député. On protège vraiment tout le monde sans aucune distinction.
On parle beaucoup des enfants, mais les adultes ont aussi besoin d'être protégés du cyberharcèlement.
Ils ont besoin d'être protégés, c'est pas vraiment pour les mêmes problèmes, mais ils ont également besoin d'être protégés, et nous on protège vraiment tout le monde gratuitement du cyberharcèlement, et on ne fait aucune distinction sur qui on protège.
Est-ce que la fameuse loi Avia règle des problèmes ou pas, Charles ?
Alors, le problème, pour moi, il y a un souci au niveau de la loi Avia, c'est la communication.
Qui est une loi qui a été donc mise en place pour lutter contre le cyberharcèlement. Hein.
Et qui a été un peu vidée de sa substance, puisqu'elle a été censurée. Alors, si je rappelle simplement, la principale mesure de la loi Avia, c'était de dire les réseaux sociaux, dès qu'on vous signale un contenu illicite, faut le supprimer en 24 heures, sinon vous avez une amende énorme.
Tout à fait. Cet article 1 a été retiré, donc elle n'a plus vraiment d'utilité. Je pense que pour parler très vite de la loi Avia, il y a eu un problème de communication autour de cette loi. On parle de haine en ligne, mais il faut diviser les deux choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. La haine, c'est deux choses. C'est le cyberharcèlement, des contenus haineux destinés à une personne en particulier, et les discours de haine, des contenus haineux destinés à un groupe de personnes, de par leur religion. Sur le cyberharcèlement, il y a une vraie nécessité d'une loi Avia. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas attendre 24 heures pour supprimer un contenu haineux. Le mal est déjà fait, ça ne sert à rien. Donc, tous les contenus liés au cyberharcèlement, on doit les retirer le plus vite possible, parce que ça fait des suicides. Là où, par contre, pour les discours de haine, là, il y a débat. Et pour moi, c'est ce qu'on a chez Bodyguard, c'est notre vision chez Bodyguard. Pour nous, il faut une modération à l'utilisateur, où chacun des utilisateurs peut fixer un curseur, au moins, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est la limite entre la liberté d'expression et le cyberharcèlement.
Tout le monde est content.
Là, il n'y a pas de débat. Faut évidemment
tout le monde a sa liberté.
Et dernière question, Bodyguard, ça permet aussi de signaler, parce que là, on peut masquer des contenus, mais est-ce qu'on peut demander à la plateforme de supprimer des contenus? Parce que là, on parle de suppression. Oui. Et est-ce que derrière, ça peut aller encore plus loin en alertant, je sais pas moi, les autorités? Parce que derrière, c'est quand même illégal tout ça. Donc, il faut quand même derrière que ça puisse suivre au niveau, éventuellement, s'il le faut, policier ou...
Tout à fait. Et on accompagne beaucoup de nos utilisateurs en leur fournissant tous les contenus et ne supprimer sous format Excel pour que les aider à porter plainte. Exactement. Et derrière, sur certains contenus, on signale les contenus aux plateformes.
Merci beaucoup, Charles Cohen.
Merci à vous.
Bodyguard, donc, sur iOS et Android, on peut tester.
Et je rappelle que les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas forcément anonymes. On a des pseudonymes, mais ils ne sont pas anonymes. C'est-à-dire que s'il y a une plainte, le réseau social, Twitter, Facebook, va donner l'adresse IP de la personne et la police va remonter jusqu'à cette personne. Donc, on n'y a pas d'impunité sur Internet.
Philippe est avec nous au 32-16. On passe carrément à autre chose, un sujet un petit peu plus léger. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour à vous.
Et bienvenue sur RMC, Philippe. On vous écoute.
Merci. Alors, j'avais une petite question. Nous avons un vieux PC à changer et je m'étais intéressé au Lenovo Chromebook C340-11 qui me paraissait sympa, sachant qu'on fait de la bureautique vraiment de base de chez base, quoi. Et je voulais savoir si c'était un produit qui pouvait convenir à notre utilisation.
Alors, j'ai une question. Vous l'avez vu à quel prix ce produit? Parce que j'ai pas le prix en tête, pour être honnête.
Alors, la dernière fois que je l'ai vu, parce qu'on n'a pas pu le trouver, il n'est pas disponible.
Ouais.
Ça coûtait 399 euros.
D'accord.
Ah oui.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas cher. En fait, on en a parlé assez récemment des Chromebooks. L'intérêt des Chromebooks, okay. c'est souvent le rapport qualité-prix.
Vous savez ce que c'est vraiment, Philippe, hein, Chromebook, vous voulez qu'on vous le rappelle?
Je veux bien. Alors moi, pour l'instant, j'utilise principalement une tablette iPad. Oui. Mais c'est trop limité au niveau des applications. Certains sites ne passent pas, on ne le voit pas tout entier.
D'accord. Un Chromebook, vous savez ce que c'est ou pas?
C'est une tablette, je pense.
Bah, ça ressemble. C'est pas une tablette, c'est un ordinateur, mais sous Chrome OS, c'est-à-dire que c'est pas sous Windows. Donc fait, c'est un système d'exploitation qui est un peu comme une tablette, un peu mobile. Donc si c'est ce qui vous embête, moi à votre place, j'irais peut-être vers un PC plus classique, c'est-à-dire sur Windows.
Alors, ça m'embête pas en fait.
J'ai peur que vous retrouviez les mêmes limites que sur votre tablette quelque part. Ah, un Chromebook, d'accord. C'est bien pour avoir des applications.
Vous pouvez pas stocker grand chose en fait sur un Chromebook.
Vous pouvez rien stocker, enfin pas grand chose, hein, franchement.
D'accord, donc il faudrait mieux que je me rende vers un PC, un petit PC.
C'est un usage proche de tablette avec clavier, c'est intéressant parce que c'est pas cher les Chromebooks. Mais il faut partir du principe qu'on a des applications et on n'a pas tous les logiciels comme sur Windows, notamment la suite Office par exemple, c'est l'application, mais c'est pas exactement les mêmes fonctions. Donc ça correspond très bien pour un usage très 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 simple. Mais si vous vous sentez frustré par une tablette, je me demande s'il ne faut pas quand même vous tourner un PC classique.
Philippe, ce qui vous séduisait, c'était le prix. C'est ça?
Le prix déjà,
taille,
et puis la facilité de l'emporter. Il me faut une imprimante aussi sans fil, Wi-Fi.
Après, sur le côté encombrement, franchement, les ultra portables aujourd'hui, c'est très très fin. Hein. Franchement, vous trouvez un 13 pouces, il n'y a aucun problème.
Pas, sans doute pas 300.
Alors, vous ne le trouverez pas à ce prix-là. Vous le trouverez plutôt dans les 600 euros plutôt, les premiers prix. Mais regardez, par contre, vous pouvez rester chez Lenovo parce que Lenovo, en rapport qualité-prix, ils sont bons pour une raison simple, c'est que je crois que c'est le plus gros fabricant quasiment de PC portables au monde. Donc ils ont des quantités énormes, donc ils arrivent à faire des prix bas parce qu'ils achètent les composants en grande quantité. Donc Lenovo, d'accord, sur le rapport qui a été pris, c'est pas mal. Hein. Donc moi, je pense que vous pouvez rester chez Lenovo. Mais voilà, je veux juste vous mettre en garde sur le Chromebook qui est très intéressant, mais pour un type d'utilisateur précis. Et vous qui êtes frustré par le côté mobile de la tablette, j'ai peur que vous retrouviez cette frustration.
Voilà, Philippe, merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, Raphaël, on se retrouve la semaine prochaine.
Bien sûr, avec plaisir.
On sera là entre 9h et 10h sur RMC pour ce rendez-vous Vie numérique avec toutes vos questions sur tous nos usages liés au numérique. Je vous retrouve bien sûr demain. Demain, on sera là. Alors, 6h, 7h, de quoi je me mail. On parlera smartphone, tiens, avec Nicolas Lelouch, que tu connais bien, journaliste à 0net.com. On dressera le top 10 des meilleurs smartphones du moment. Comme ça, vous pourrez choisir. Et à partir de 7h, 3h d'automobile avec Jean-Luc Moreau. Que faire lorsqu'on tombe en panne sur l'autoroute avec sa voiture? Il nous donnera tous ses conseils. Quel véhicule électrique possède le record d'autonomie? Et puis, surtout, on aura un quiz de l'été qui durera plus de 40 minutes avec Maître Rémi Jossomme qui sera là et on va bien s'amuser. Maître Rémi Jossomme essaiera de nous coincer avec ses questions sur le code de la route. Qui va gagner, Jean-Luc ou moi? Vous le saurez demain. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On se retrouve donc demain et